Bonjour à tous, ceux qui sont dans la salle et également ceux qui nous suivent sur Internet via l'enregistrement. Et donc, bienvenue à ce neuvième cours, déjà, de la série « Programmer égale démontrer », point d'interrogation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux types de données infinies et aux moyens de les définir et de raisonner dessus. Alors, c'est un peu le complémentaire du cours qu'on avait fait en deuxième semaine, donc le 28 novembre, où on avait vu les types et les prédicats inductifs comme un mécanisme très général, très puissant, pour définir des types de données et des prédicats logiques qui sont finiment engendrés par les constructeurs et du coup qu'on utilise par récurrence structurelle et par analyse de cas. Donc juste un exemple pour vous remettre ça en tête, les entiers naturels en coq, donc se présenter comme une constante O et un constructeur constant O et un constructeur S comme successeur qui prend un nombre et vous rend un nombre. Et donc ça vous donne la représentation en base 1 des nombres naturels. Et vous pouvez définir des fonctions, comme par exemple l'addition, qui va être par récurrence structurelle sur son premier argument, d'accord, avec des appels récursifs qui se font toujours sur un sous-terme de l'argument. C'est ça qui garantit la terminaison. Et des prédicats aussi qu'on peut définir dans le même style. Par exemple, le prédicat être impair avec deux cas, donc deux constructeurs. Le premier qui dit que 0 est pair, et le deuxième qui dit que si n est pair, alors successeur de n est pair. Donc voilà le genre de choses qu'on utilise couramment pour raisonner finiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour déclarer et travailler sur des structures de données infinies? Alors, un exemple, c'est les flux. Donc les flux, les streams en anglais, donc c'est des listes infinies. Et donc un flux, c'est une paire d'une valeur, la tête du flux, le premier élément du flux, et puis du reste du flux, qui est lui-même un flux, qui est lui-même infini, donc. On peut faire des arbres binaires infinis, d'accord. Donc un nœud, il va y avoir une valeur, un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit, les deux sous-arbres étant eux-mêmes des arbres infinis. Alors, bien sûr, par infini, on veut dire potentiellement infini. Si vous avez un programme qui termine, de toute manière, il va explorer qu'une partie finie de votre structure de données, qu'elle soit finie ou infinie. Malgré tout, conceptuellement, ce n'est pas la même chose, et on voudrait vraiment raisonner et construire ces données comme si on pouvait les parcourir à l'infini, d'où l'allusion à Sisyphe dans le titre de ce cours. Alors, vous pouvez être aussi un peu surpris, parce que la mémoire d'un ordinateur est finie, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on va faire entrer des données infinies dedans ? Une première approche, c'est par des représentations à base de graphes orientés et puis avec des cycles dedans. Donc si on peut relire un graphe orienté avec des cycles comme un arbre infini. Un exemple, c'est les automates finis déterministes sur un alphabet, mettons 0,1. Donc traditionnellement, c'est représenté comme un graphe fini, mais vous pouvez aussi lire ce graphe comme un arbre binaire infini. À chaque nœud, vous avez un booléen qui vous dit si l'état est acceptant ou non. Vous avez un sous-arbre gauche étiqueté 0 qui correspond à ce qu'il faut faire si le mot que vous lisez commence par un 0. Et puis un sous-arbre droit étiqueté 1 qui correspond au mot qui commence par 1. Et ça forme a priori un arbre infini, même s'il y a une représentation sous forme de graphe qui est tout à fait finie. Alors, ceci dit, un graphe fini ne peut pas représenter toutes les structures infinies, d'accord ? Seulement les structures infinies dites régulières, celles qui ont un nombre fini de sous-structures différentes. Par exemple, le flux 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, il n'y a que trois flux différents là-dedans. Alors que le flux de tous les entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., lui n'est pas régulier, d'accord ? Mais donc, la représentation générale, en fait, c'est en utilisant de l'évaluation à la demande, l'évaluation retardée des sous-structures. Donc là, en camel, par exemple, le type des flux, donc alpha stream, vous pouvez le définir comme une fonction qui prend un argument trivial, le type unit, et va vous rendre une cellule étant la tête du flux, alpha, et le reste du flux, la queue du flux, un alpha stream. Et du coup, à chaque fois que vous faites tail ou head, vous demandez à consulter la tête ou la queue d'un flux, en fait, son évaluation est déclenchée. Et l'évaluation donc, se fait à la demande et ça permet d'explorer finiment des flux infinis arbitraires. Une variante, c'est d'utiliser de l'évaluation paresseuse explicite, l'évaluation paresseuse donc à la demande. La première fois que la valeur est nécessaire, le calcul est déclenché, son résultat est enregistré. La deuxième fois qu'on utilise la valeur, on va réutiliser le résultat déjà calculé. Donc c'est plus efficace, mais ça ne change rien sémantiquement. Et puis, il y a des langages comme Haskell où l'évaluation à la demande est le mode d'évaluation par défaut. D'accord. Donc, si vous définissez ce type de données en Haskell, data stream de A égale cons de A et de stream de A, c'est implicitement en évaluation à la demande, implicitement paresseux. Et donc, automatiquement, vous obtenez des structures infinies. Bien. Et donc, l'objectif de ce cours aujourd'hui, ça va être de regarder différentes manières de modéliser les structures de données infinies et de raisonner dessus. Donc, on va avoir essentiellement trois approches. L'approche classique, ensembliste, en termes de plus grands points fixes. L'approche plus théorie de la démonstration, qui sous-tend ce que vous trouvez dans Hancock, par exemple, aujourd'hui, ou dans AGDA, il y a quelque temps, à base d'arbres et de notions d'arbres infinis et de dérivations infinies, donc de termes de preuve infinis. Et puis, une approche plus récente, dite coalgébrique, parce qu'elle est inspirée par une certaine dualité entre les algèbres initiales et les coalgèbres finales, où on voit les données usuelles définies par leurs constructeurs et les codonnées qui sont définies par leurs observations. Donc il y a cette dualité qui est à la base de cette approche. Et on va voir deux applications, alors parmi de nombreuses applications, mais bon, il a fallu que je fasse quelques choix. Donc la première, ça va être la monade de partialité, qui est un moyen donc, pour parler de récursion générale et de calculs qui ne terminent pas forcément en théorie des types. Et le deuxième, ça va être la programmation réactive, qu'on peut voir comme de la programmation sur des flux, mais peut-être pas. Et donc, eh bien, commençons tout de suite avec donc, quelques rappels sur les points fixes, plus petits points fixes et plus grands points fixes. Donc ça, c'est des résultats de maths très classiques. On se donne un ensemble A et une fonction, donc des parties de A dans les parties de A, qui font des ensembles qui vont à un ensemble, et qui est croissante, d'accord ? Donc si x est plus petit est dans y, alors f de x est dans f de y. Et un petit peu de terminologie, donc on dit que x est stable par f, un ensemble x est stable par f si l'image f de x est incluse dans x. Et dans le cas contraire, dans le cas inverse, si x est inclus dans f de x, on dit que x est cohérent pour f. Et donc maintenant le théorème qu'on va utiliser, donc énoncé sous plusieurs formes dans la littérature, donc par Knaster, Tarski, puis par Tarski, puis par Clini. Donc celui qu'on va utiliser, c'est celui qui nous dit que l'ensemble des points fixes de f, donc des ensembles x qui sont égaux à f de x, forme un treillis complet. Et ça, ça a pour conséquence particulier, bon, d'abord qu'il est non vide, donc il y a au moins un point fixe. Deuxièmement, il y en a deux, en fait, qui peuvent être le même, mais en général, on peut en définir deux qui ne sont pas forcément le même. Mu f, qui est le plus petit point fixe de f, qui est l'intersection de toutes les parties qui sont stables par f, et donc qui est la plus petite partie stable par f, et qu'on peut voir aussi comme la limite, qu'on peut obtenir par itération à partir de l'ensemble vide. On applique f sur l'ensemble vide, ce qui le fait grossir, f de l'ensemble vide, f de f de f de l'ensemble vide, et ça, ça nous forme une suite croissante qui a une limite qui est mu f, le plus petit point fixe. Et puis l'autre, nu f, qui est le plus grand point fixe de f, c'est l'union de toutes les parties cohérentes x cohérentes pour f, donc c'est le plus grand ensemble cohérent pour f, et c'est la limite de la suite décroissante que vous obtenez en itérant à partir de A, à partir de l'univers. Alors tout ça est un peu aride, donc je vous l'illustre. Donc là, vous avez votre fonction en bleu, et en rouge, c'est la diagonale, et donc les points fixes, c'est les endroits où la fonction, la courbe bleue, coupe la diagonale. D'accord. Donc ici, on en a trois, et il y en a deux qui nous intéressent tout particulièrement, le plus petit, μf, le plus grand, nuf. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit qu'il y a une alternance entre donc des zones, des ensembles qui sont cohérents, où la fonction est au-dessus de la courbe, puis stable, où elle est en dessous, puis cohérente, puis stable. Et donc μf est bien le plus petit stable, d'accord, et nuf le plus grand cohérent. Alors, petit point de terminologie, donc certains auteurs disent que cohérent c'est pré-point fixe, stable c'est post-point fixe, et d'autres auteurs disent exactement l'inverse, cohérent c'est post-point fixe, et stable c'est pré-point fixe, et à chaque fois que je fais un exposé, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui a la convention inverse, donc j'ai décidé de ne plus utiliser cette convention de pré- et de post-point fixe. Nous allons donc parler de points qui sont cohérents et de points qui sont stables. Bien, et puis finalement, oui, j'ai essayé de dessiner ici les deux itérations que vous pouvez faire, donc celle qui part de l'ensemble vide et puis qui monte doucement vers le plus petit point fixe, et celle qui part de l'univers complet et qui descend doucement vers le plus grand point fixe. Bien, et avec ces définitions viennent des principes de raisonnement. L'induction, et la co-induction. Donc l'induction, c'est bref, une espèce de généralisation de la récurrence, et la co-induction, ça va être quelque chose d'un peu nouveau aujourd'hui. Donc l'induction, c'est tout simplement que si vous avez un ensemble X tab par F, alors il contient mu F, le plus petit point fixe, qui est aussi le plus petit ensemble stable. Et ça, ça veut dire que si vous voulez montrer que pour tout A dans mu F, A est dans X, pour un ensemble X de votre choix, il suffit de montrer que pour tout A dans F de X, A est aussi dans X. Et la co-induction, c'est le dual, bien sûr. Donc si vous avez un ensemble X qui est cohérent pour F, alors il contient le plus grand point fixe nu F. Et donc, si vous voulez montrer que pour tout A dans un certain ensemble X, A est dans nu de F, dans le plus grand point fixe, il suffit de montrer que tout A qui est dans X est l'image d'un élément de X, d'accord, et dans F de X. Et la variante qu'on utilise le plus souvent en pratique, c'est pour montrer qu'un point, petit a, est dans le plus grand point fixe, on invente un ensemble grand X qui contient A et qui est cohérent pour F. D'accord. Et ceux d'entre vous qui ont fait des calculs de processus, par exemple, ces ensembles, c'est ce qu'on appelle souvent des bisimulations ou des simulations, d'accord, pour montrer que deux processus sont équivalents observationnellement, qui est une relation co-inductive. On exhibe un certain ensemble X comme ça, qui a les bonnes propriétés de bisimulation et qui les contient. Bon, mais on parlera pas de calcul de processus aujourd'hui. Et maintenant, revenons à nos types de données. Donc, en quoi ça nous aide pour comprendre les types de données. Donc, considérons une déclaration de type algébrique, donc les nombres naturels qu'on a vus tout à l'heure, donc avec leurs deux constructeurs, 0, constructeur, O, constructeur constant, S, constructeur d'arité 1. Et on l'associe à ces deux constructeurs un opérateur F. Donc F de X, c'est l'ensemble des valeurs que l'on peut construire en appliquant une fois un constructeur et en prenant les arguments de type nat, du type inductif, dans grand X. Et donc dans l'exemple, ça veut dire que F de X, ça contient toujours O, on peut toujours construire O, c'est un constructeur constant, union les S de X, où X, petit x, est pris dans grand X. D'accord ? Donc c'est ce qu'on peut construire à partir de grand X en appliquant les constructeurs. Et alors, il se trouve que cet opérateur est croissant, et en fait, il est croissant dans tous les cas où on peut former un type inductif, c'est-à-dire quand les occurrences récursives du type sont, dans les types des constructeurs sont strictement positives, c'est ce qu'on avait vu dans le cours de la deuxième semaine. Et maintenant, eh bien, le type inductif qui est défini ici, c'est mu f, le plus petit point fixe de cet opérateur. Mais il y a aussi un type co-inductif qui est défini par la même déclaration, par une déclaration de la même forme, et qui est nu f, le plus grand point fixe de l'opérateur f. Alors regardons un peu les différences entre les deux. Donc l'interprétation inductive, c'est celle qui vous est familière, d'accord ? Donc vous l'obtenez en coq en tapant inductive comme mot-clé. Et donc nat est le plus petit point fixe de cet opérateur grand f. Et donc c'est aussi la limite de cette suite, qui est une forme intéressante. F de l'ensemble vide, c'est juste le constructeur O. F de F de l'ensemble vide, il y a deux éléments, O et S de O. Si vous itérez F n fois, vous obtenez tous les entiers de la forme O, S de O, jusqu'à S itéré n moins une fois de O. Et donc, on voit bien que nat, c'est l'ensemble de ces termes. S itéré n fois appliqué à O. Et ça se montre facilement, en particulier par le principe d'induction. La définition co-inductive, l'interprétation co-inductive, vous l'obtenez aussi en coq avec un autre mot-clé qui est co-inductive. Donc ça va nous donner les conates, les nombres co-naturels. Et c'est le plus grand point fixe de F. Alors c'est aussi une limite d'une suite, mais qui a une forme un peu plus compliquée. Donc on voit qu'à l'étape n, elle contient la même chose que les n premiers entiers finis. D'accord ? Mais elle va aussi contenir des choses de la forme s puissance n de x, où x est quelconque. Et donc, si on itère à l'infini et qu'on prend l'inclusion de tout ça, en fait, on voit que conate, c'est les naturels plus un point à l'infini. Donc, plus précisément, toute S puissance N de 0 est dans conate, donc tout naturel peut aussi être vu comme un conaturel. Mais il y a un terme de plus qui est oméga, qui est défini par l'équation oméga égale S de oméga. Donc, c'est un emboîtement infini de S. Et on sent bien que ça code la notion d'infini dans les nombres. Et comment on montre que ce terme est dans le plus grand point fixe ? Eh bien parce que le singleton avec ce terme dedans est inclus dans son image par F. D'accord ? Donc par le principe de co-induction, il est dans le plus grand point fixe. Voilà, donc là on a défini les types de données. Et par la même approche, on peut définir des prédicats. Donc rappelez-vous, un prédicat défini par axiome et règle d'inférence, c'est juste un type inductif, un type à valeur dans propre, d'accord, dans le type des propositions. Par exemple, le prédicat être père sur les entiers, qu'on a déjà vu tout à l'heure dans le rappel, il est engendré par un axiome, even de 0, et une règle d'inférence. Si even de n, alors even de s de s de n. Et à ce système de règles et d'axiomes, on associe également un opérateur, f de x. Donc cette fois-ci, f de x est un ensemble de propositions logiques, un ensemble de faits, d'accord, et x aussi d'ailleurs. Et donc f de x est l'ensemble des faits que l'on peut déduire en utilisant ces axiomes et ces règles à partir des faits qu'on nous donne dans grand X. Et donc, c'est de la forme even de 0, ça on peut toujours le déduire, union even de s de s de n, si even de n est un fait connu dans x. D'accord. Et donc là aussi, on va faire le petit jeu, plus grand point fixe, plus petit point fixe. Donc le plus petit point fixe, c'est l'interprétation inductive, c'est ce que vous obtenez en coq avec le mot clé inductive. Il vient avec un principe d'induction, qui est que pour montrer que pour tout m, even de n implique une certaine propriété, p de n, il suffit de montrer que la propriété est vraie pour le cas de base, donc p de 0, et pour le cas récursif, c'est-à-dire si p de n, alors p de s de s de n. D'accord. Et ça permet d'ailleurs de caractériser complètement even. Donc even, ah oui, parce que là, even s'applique sur les co-naturels. D'accord, c'est plus drôle. Donc, et donc on peut montrer par des inductions que oméga, le co-naturel infini, n'est pas even, n'est pas pair. D'accord, et ça c'est juste une induction sur even de m. Et en revanche, on peut montrer que tous les nombres de la forme n plus n ou n est fini. Sont even. Et l'interprétation co-inductive, donc elle, c'est encore une fois juste le plus grand point fixe du même opérateur, donc c'est les mêmes constructeurs, mais avec le mot-clé co-inductive en coq, vient avec un principe de co-induction. Et cette fois-là, les propriétés qu'on peut montrer, c'est pas de la forme si je suis even alors, c'est de la forme si alors je suis co-even. Donc pour tout n, p de n implique co-even de n. Et pour ça, il suffit de montrer donc, que l'ensemble n tel que p de n est cohérent, et donc que si p de n, alors soit n égale 0, on est justifié par ce cas-là, soit n est de la forme successeur de m, et m est lui-même dans p. M est lui-même satisfait lui-même grand p. Et ça, ça permet de montrer, par exemple, que tout nombre even, tout nombre pair et copair, d'accord, even de n implique co-even de n. Alors, c'est une preuve intéressante, on peut la faire de deux manières différentes. On peut la faire par co-induction, parce que p de n égale even de n satisfait ça, ou on peut la faire par induction sur even de n, ça marche aussi. En revanche, là où la co-induction est indispensable, c'est pour montrer que oméga satisfait co-even. Parce que, encore une fois, le prédicat p de n, qui est juste n est égal à oméga, satisfait cette condition de cohérence. Voilà. Donc ça, c'est l'explication, disons, classique, ensembliste, à base de plus petit point fixe, plus grand point fixe, d'ensemble et de prédicat. En fait, c'est comme ça, par exemple, que des prouveurs comme des assistantes de preuve comme Isabelle HOL présentent les types inductifs et les types co-inductifs. Et en fait, dans les systèmes comme Coq ou AGDA jusqu'à une date récente, en fait, la présentation est davantage syntaxique, davantage en termes de théorie de la démonstration, disons. Et relativement plus simple peut-être, elle se fait en termes d'arbres. D'accord. Donc une valeur d'un type inductif ou co-inductif, vous pouvez toujours la dessiner dans votre tête comme un arbre. Donc aux feuilles de cet arbre, il y a des constructeurs constants. Aux nœuds, il y a des constructeurs non constants. Et si n est l'arité du constructeur, son nombre d'arguments, vous allez avoir n sous-arbres qui vont être du bon type. Alors on peut même avoir des nœuds qui ont une infinité de sous-arbres. Typiquement, c'est quand vous avez un constructeur qui prend en argument une fonction. Donc du coup, chaque nat, chaque argument possible pour la fonction vous donne un sous-arbre différent. Bon. Mais donc par exemple, si on a une signature des nombres naturels, donc avec juste 0 et successeur, ben, on peut former des arbres infinis comme celui-là, S, avec un seul sous-arbre 0, et puis c'est fini. Ou un arbre infini comme celui-là, avec une seule branche. Alors c'est des arbres un peu filiformes, hein, puisque notre constructeur est d'arité 1. Mais donc ça, c'est un arbre infini qui a juste une branche constituée uniquement de S. Et donc C'est très facile de caractériser maintenant ce que c'est qu'un type coinductif ou inductif. Les valeurs d'un type coinductif, ce sont les arbres qui sont finis ou infinis. Donc il n'y a pas de restriction. Alors que les valeurs d'un type inductif sont les arbres dont toutes les branches sont finies. Et si tous vos constructeurs sont d'arité finie, vous n'avez pas des constructeurs comme ça, ça veut dire également que donc, les valeurs d'un type inductif sont, dont tous les constructeurs sont d'arité finie sont des arbres finis. Il y a un nombre fini de nœuds et de feuilles. C'est tout. Donc, bon, c'est pas sorcier. Et le même raisonnement s'applique pour les prédicats. Donc, un prédicat inductif ou co-inductif, vous pouvez voir les démonstrations, les preuves du fait que ce prédicat est vrai pour un certain argument, comme un arbre. On appelle ça un arbre de dérivation, ou juste une dérivation. Aux feuilles, il y a des instances d'axiomes, comme even de O. Et au nœud, vous avez des instances de règles d'inférence. Et si vous avez n prémices à votre règle d'inférence, vous avez n sous-dérivations. Alors, il y a quelque chose qui est troublant. Les informaticiens dessinent les arbres avec la racine en haut. D'accord ? Donc là, la racine, elle est ici. Alors que les logiciens dessinent les dérivations avec la racine en bas. Donc en bas, c'est la conclusion. Donc c'est la racine. Et du coup, ça monte vers le haut. Mais là, on pousse vers le haut, ce qui est peut-être plus logique, en fait. Donc là, vous voyez une dérivation finie, par exemple, de even de s de s de 0, parce qu'avec une sous-dérivation even de 0, et puis c'est un axiome, donc on s'arrête. Et là, vous avez une dérivation infinie, c'est pour ça que j'ai mis des doubles barres, co-even de oméga, parce que oméga, c'est successeur de oméga, et co-even de oméga, parce que oméga, c'est successeur de successeur oméga, et parce que co-even de oméga, et je peux continuer comme ça infiniment. D'accord ? Donc là aussi, je construis ma branche infinie, ma dérivation filiforme infinie. Et donc, un prédicat co-inductif est vrai si et seulement s'il est conclusion d'une dérivation quelconque, finie ou infinie. Un prédicat inductif est vrai s'il est conclusion d'une dérivation dont toutes les branches sont finies. Et si toutes vos règles ont un nombre fini de prémices, un prédicat inductif est vrai si et seulement s'il est conclusion d'une dérivation finie. Bon, voilà. C'est pas, encore une fois, pas très compliqué. Et ça nous donne aussi des idées sur comment on va calculer sur ces types inductifs ou co-inductifs, ou comment on va construire des dérivations de ces prédicats, des preuves donc de ces prédicats inductifs ou co-inductifs. Donc comment on fait de la récursion ? Donc une fonction récursive qui prend un type inductif, IND, et renvoie un type quelconque, a besoin d'être structurelle. Donc les appels récursifs, dans les membres droits, f de y, doivent se faire sur des sous-termes stricts de l'argument. D'accord ? Donc ici, par exemple, j'ai une fonction sur un nombre naturel n, et dans le cas où n est successeur de p, je peux me rappeler récursivement sur p, mais pas sur n. Et cette garantie donc, de récursion structurelle, c'est que ça nous donne pardon, comme garantie que le calcul de f de n va toujours terminer. D'accord ? En un nombre fini de déroulage, ça revient à parcourir une de ces branches finies dans l'arbre, en un nombre fini de déroulage, je vais tomber sur un cas de base. Symétriquement, une fonction co-récursive, cette fois-là, c'est une fonction qui prend un argument de type quelconque et renvoie un résultat dans un type co-inductif, il faut qu'elle soit productive. Les appels récursifs f de y peuvent se faire sur n'importe quel argument, mais ils doivent être des sous-termes stricts du résultat. Exemple, une fonction f qui nous renvoie un co-naturel et qui fait une analyse de cas. Alors, elle peut nous renvoyer le co-naturel 0. C'est bon, c'est un constructeur, puis de toute manière, il n'y a pas d'appel récursif, donc co-récursif, donc il n'y a pas de problème. Là, on a un appel co-récursif sur un argument quelconque, mais qui est argument du constructeur grand S, donc c'est bon, on a au moins un constructeur qui enveloppe le résultat de l'appel co-récursif. En revanche, si on se rappelle co-récursivement sans constructeur, c'est pas bon. Et si on se rappelle co-récursivement, puis qu'on passe son résultat à une fonction G quelconque, dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait, c'est pas bon non plus. Ce n'est pas productif. Et la conséquence de cette notion de productivité, alors bien sûr, on ne va jamais pouvoir calculer complètement f de x, d'accord, parce qu'on peut nous renvoyer un résultat infini, mais l'idée, c'est qu'on peut toujours, en temps fini, calculer le constructeur de tête de f de x. On peut, en temps fini, déterminer si c'est 0 et successeur. Et si c'est successeur, en temps fini, on va à nouveau pouvoir déterminer si c'est 0 ou successeur. Et donc, en temps fini, on peut explorer un préfixe fini de notre structure de données potentiellement infinie. Et ça, c'est tout ce qu'il nous faut, en fait, pour garantir, d'abord, qu'on peut écrire des programmes intéressants et qu'il n'y a pas d'incohérence logique. Alors, quelques exemples de définitions co-récursives. Donc, l'entier plus l'infini, D'accord, donc c'est le oméga dont on parlait tout à l'heure, c'est un co-fixed point en coq, d'accord, ça veut dire définition par co-récursion, qui est égal à S de oméga, à S de lui-même. Et ça, c'est bien productif parce qu'on a un constructeur S à chaque fois. D'accord. De même, l'addition de deux entiers qui peuvent être éventuellement infinis, donc c'est le même algorithme que l'addition usuelle sur les entiers inductifs, et c'est bien gardé parce que dans l'appel récursif, d'accord, il est la forme successeur de add sur certains arguments. Et c'est une addition qui fonctionne très bien. D'accord, vous lui donnez deux conaturels qui sont finis, vous obtenez un résultat fini en temps fini. Et puis si un des deux arguments est infini, ben le résultat va être infini, une infinité de S. En revanche, la soustraction n'est pas définissable. D'accord, si vous prenez la même récurrence que la soustraction sur les nombres naturels, dans le cas successeur de P' moins successeur de Q', vous vous rappelez, en faisant la soustraction de P' et de Q', cet appel récursif n'est pas gardé, cette définition n'est pas productive. Et en effet, si vous lui donnez oméga comme ces deux arguments, d'accord, vous faites oméga moins oméga, eh ben, la fonction elle va boucler infiniment sans pouvoir déterminer quel est le constructeur de tête du résultat. D'accord, puisque elle voit des S en nombre égal, en même nombre, des deux côtés, infiniment longtemps, et donc il n'y a pas moyen de basculer d'un côté ou de l'autre des cas de base. Voilà, donc une certaine logique quand même dans ce critère de productivité, les mêmes raisonnements, les mêmes critères s'appliquent quand on veut faire des démonstrations. D'accord, on veut démontrer les choses par co-induction. Eh bien, ce sont des définitions co-récursives d'un terme de preuve. D'accord ? Par exemple, donc, le prédicat être infini pour un co-naturel, c'est un prédicat co-inductif, bien sûr, avec une seule règle. Si n est infini, alors successeur de n est infini. Et on voit bien qu'il est vrai que pour une infinité de S, donc pas pour des nombres finis. Et maintenant, vous voulez démontrer que oméga est infini, donc infinite de oméga, il vous faut trouver un terme de ce type. Et moralement, c'est une co-récursion, d'accord, co-fixed point, donc infinite de oméga, qui va être le constructeur infinite de S appliqué à oméga et au fait que oméga est infini, qui est notre hypothèse de co-induction, d'accord. Bien sûr, c'est une preuve circulaire, mais elle est gardée, puisqu'à chaque étape de preuve, on invoque au moins une fois le constructeur infinite de S. D'accord. Et ça, ça suffit, à démontrer, à montrer qu'il existe une démonstration bien formée, infinie mais bien formée, du fait que oméga est infinite. Alors, j'ai un peu triché. En fait, si vous passez ça dans Coq, il n'accepte pas, parce que le terme de preuve ici, en fait, il démontre que successeur de oméga est infinite. D'accord. Et maintenant. On n'a pas, en fait, par conversion, le fait que successeur de oméga est égal à oméga. D'accord ? C'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi dans le transparent après. En revanche, on peut montrer explicitement une égalité. On peut démontrer une égalité. Oméga égale S de oméga. Coq ne va pas le faire par calcul, mais nous, on peut le faire par démonstration. Et on peut appliquer, du coup, cette égalité pour réécrire la conclusion de infinite de S de oméga en infinite de oméga. Et Coq est suffisamment gentil pour se rendre compte que ça reste productif. Alors oui, pourquoi ces règles de réduction bizarres ? On comprend bien que quand on a une définition récursive ou une définition co-récursive, on ne peut pas les dérouler arbitrairement. D'accord ? Dérouler, c'est remplacer la fonction récursive par son membre droit. D'accord ? Parce que on risque la non-terminaison. Par exemple, si on déroule oméga, on remplace oméga par sa définition, qui est S de oméga, puis à nouveau oméga par sa définition, ça fait S de oméga, et on peut faire ça à l'infini. Donc nos réductions ne terminent pas, et a priori, ça va rendre la logique incohérente. Et donc Coq utilise une règle de réduction qui est qu'une définition co-récursive, donc co-fixed point, blablabla, que je note nu x.a, s'expanse en A, le corps de la définition où x est remplacé par nu x.a, seulement quand elle est argument d'un match. Donc seulement quand on a besoin de connaître le constructeur de tête de la définition. Et donc là, on a cette expansion qui, a priori, va faire apparaître un constructeur de tête dans A et permettre de résoudre le match, l'analyse de K, et permettre donc de continuer. Et c'est à rapprocher de la règle symétrique pour les définitions de fonctions récursives, donc les fixed points, que je note mu f lambda x.a, qui s'expansent seulement quand l'argument à laquelle elle est appliquée est un constructeur. Et donc ça aussi, donc ça va faire, ça va exposer le corps de la fonction A avec un argument x qui va être un constructeur, et si la fonction filtre sur le constructeur, ça va permettre de match sur le constructeur, ça va permettre d'avancer. Bon, donc voilà qui est raisonnable. Après, alors les choses deviennent de plus en plus bizarres, parce que même si elle n'est pas vraie par conversion, donc on peut montrer cette égalité oméga égale s de oméga par démonstration. Donc on montre d'abord une propriété d'extensionnalité sur les valeurs de type Conat, qui en fait est vrai pour tous les types inductifs ou co-inductifs en Coq, c'est que c'est égal, un Conat n est égal à, ben, si n est 0, c'est égal à 0, et si n est la forme successeur de m, alors c'est égal à successeur de m. On a l'impression que c'est une vaste trivialité, d'accord, un nombre est égal à lui-même. Bon. Mais unroll de oméga, du coup, a un type de la forme oméga égale match de oméga with, qui nous permet de dérouler la définition de oméga, qui nous permet de simplifier le match, qui nous donne finalement l'égalité. Bon. Très bien, un peu spécial, mais après tout, pourquoi pas. En revanche, ça fait apparaître une petite difficulté métathéorique qui embête beaucoup les gens de la communauté et qu'on voit apparaître dès la thèse de Eduardo Jiménez en 1996, qui est celui qui a vraiment introduit cette notion de co-induction dans Coq. Donc du coup, on a des réductions, on a un terme unroll de oméga qui est du type oméga égale s de oméga et qui en fait se réduit, vous faites le calcul en Coq, en EQRFL de oméga. EQRFL étant le constructeur de l'égalité, d'accord, c'est le constructeur qui énonce que x égale x, que l'égalité est réflexive, d'où son nom. Et EQRFL de oméga, il a le type oméga égale oméga. Et ces deux types sont incompatibles, parce que S de oméga n'est pas convertible en oméga. D'accord, donc ce sont deux types différents. Et donc on a violé une propriété absolument essentielle de tous les systèmes de type qui s'appelle la préservation du typage par réduction, subject reduction. Si vous avez un terme M de type T et ce terme se réduit en M', alors M' reste de type T. D'accord ? Et là vous avez un terme de type oméga égale s oméga qui se réduit en quelque chose qui n'a pas le type oméga égale s oméga. Et donc c'est très troublant. Après, ça ne veut pas dire que Coq plus les co-inductifs est incohérent. Ça veut juste dire que la démonstration de cette cohérence logique va être beaucoup plus difficile, et c'est ce que Jiménez a fait dans sa thèse pour un fragment significatif de Coq. Voilà, mais je voulais quand même vous signaler cette difficulté parce que c'est aussi une des motivations pour la troisième présentation qu'on va voir dans quelques minutes à base de co-données. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer une petite application, même, pour voir à quoi ça peut servir tout ça. Et donc, on va voir que ça peut servir à représenter élégamment des calculs partiels, des calculs qui peuvent ne pas terminer. Et ça, c'est les travaux de Venanzio Capretta vers 2005. Ça s'appuie sur ce type co-inductif des delay de A. Donc, delay de A, c'est soit now, avec une valeur de type A, soit later, qui, avec un delay de A, et qui vous rend un delay de A. Et l'idée, c'est que ça représente les calculs qui, s'ils terminent, vont envoyer une valeur de type A. D'accord ? Donc si vous avez 0 ou plusieurs later et puis un now à la fin, le now contient la valeur finale du calcul et c'est le résultat. Mais comme c'est un type co-inductif et pas juste inductif, vous pouvez aussi avoir une infinité de later, d'accord ? Comme par exemple dans cette définition co-récursive de bottom au type A, qui est later de bottom de A. Et ça, cette infinité de constructeurs later, ça représente la non-terminaison, la divergence. D'accord ? Et c'est quoi l'intuition de ce constructeur later ? En fait, c'est une étape de calcul. D'accord ? C'est quelque chose qui dit, bon, je calcule un peu, je ne sais pas encore si je vais terminer ou pas, mais et si j'ai une infinité d'étapes de calcul, ben, finalement, je ne termine pas. Et puis, si j'en ai un nombre fini qui me mène à un AO, ben, finalement, je termine. Alors, bien sûr, on caractérise les calculs qui terminent par un prédicat inductif, d'accord, qui relie donc un delay de A et puis sa valeur finale A. Et ça, ça dit simplement qu'il y a un nombre fini de constructeurs later de A qui nous amène à un AO de V, et ça, c'est la valeur finale. Et on a un prédicat co-inductif qui nous dit que le calcul diverge parce qu'on a une infinité de constructeurs later. Bon. Donc tout ça est très joliment caractérisé. Et alors maintenant, ça nous permet de définir, en Coq ou dans une théorie des types, des fonctions récursives générales quelconques. Alors, bien sûr, il faut que le résultat soit dans le type delay, parce que comme ça, la fonction va pouvoir dire ah, « je ne sais pas encore si je termine, mais j'avance ». Et il faut protéger tous les appels récursifs par un constructeur later. Par exemple, donc ça c'est une fonction qui fait l'itération de la suite de Syracuse, qui fait l'objet de la conjecture de Collatz. Donc, la suite de Syracuse, c'est vous prenez un entier n, s'il est égal à 1, vous vous arrêtez, s'il est pair, vous divisez par 2 et vous continuez, et sinon vous faites 3n plus 1 et vous continuez. Et donc vous avez une suite comme ça où le n descend quand il est pair et augmente quand il est impair. Et la conjecture, la question ouverte depuis longtemps, donc conjecture de Collatz, c'est est-ce que pour tout point de départ n, cette suite arrive toujours à 1, ou bien est-ce qu'il y a des points de départ n pour lesquels la suite est infinie. Et donc là, je me suis amusé à définir ça comme une fonction récursive générale, alors, dont le résultat est trivial, d'accord, c'est juste unit, je termine. Et donc si son argument n vaut 1, alors maintenant, now, je termine. Sinon, si n est impair, je récurse sur n divisé par 2, mais je protège l'appel récursif par later. Et sinon, je récurse sur 3n plus 1 et je protège l'appel récursif sur later. Et vous voyez bien que les deux appels récursifs sont sous un constructeur du type delay, donc ça, c'est parfaitement défini. Et maintenant, vous pouvez raisonner sur la terminaison ou la divergence de la fonction. Donc la conjecture de Collatz, c'est que pour tout n supérieur ou égal à 1, Syracuse de n termine. Bon, et puis vous pouvez aussi énoncer la négation, qui est qu'il existe un n supérieur ou égal à 1 tel que Syracuse de n diverge, et si vous arrivez à montrer l'un ou l'autre de ces résultats, vous allez être célèbre. Alors, autre chose assez extraordinaire qu'on peut faire dans avec ce type delay, c'est prendre des points fixes de fonctions arbitraires. Donc avoir un combinateur de points fixes, comme le y de lambda calcul pur. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, et on peut prendre des points fixes de fonctions de la forme A flèche delay de B. Donc vous avez, on peut par point fixe définir des fonctions de type A flèche delay de B, ce qui revient à prendre un point fixe d'une fonctionnelle grand F. Vous lui donnez une fonction A flèche delay de B, elle vous rend une fonction A flèche delay de B. Et l'idée pour construire le point fixe, c'est l'idée évidente, enfin c'est l'idée des domaines de Scott, etc., c'est d'itérer la fonction F à partir d'un argument qui est indéfini partout, donc lambda x.bottom au type B. Et puis on applique ça à la valeur a, petit a de type grand A qui nous intéresse, et on voit ce qu'on obtient. Donc lambda x.bottom appliqué à a, bien sûr, c'est un calcul avec une infinité de later, donc les later sont présentés par des points ici. F de lambda x bottom appliqué à A, ben, va y avoir peut-être une infinité de bottom, peut-être un nombre fini de later, peut-être un nombre fini de later à juste une valeur V. F au carré de lambda x bottom de A peut-être va converger plus vite, F au cube, etc. Et l'idée de la construction de Capretin, c'est juste ben, on va parcourir tous ces points et s'arrêter sur le premier now, la première valeur V qu'on trouve. Et le parcours, c'est un parcours diagonal, un peu comme quand on met n carré en n croix n en relation avec n. Donc on va regarder ce point, puis ces deux points sur la diagonale, puis ces trois points sur la diagonale, puis ces quatre points, puis ces cinq points, puis ces six points. Et je crois, si je n'ai pas raté mon dessin, que le V en rouge ici est le premier défini qu'on rencontre. Et donc là, on dit c'est bon, c'est ça la valeur de Y, de F et de A. Et puis, bien sûr, si on n'en rencontre aucun, cette recherche, elle est dans le type delay de B. Donc elle peut aussi ne pas terminer. Et dans ce cas-là, ben, Y de F de A n'est pas défini, et bottom n'est pas défini. Et sous certaines hypothèses sur F, grand F, on arrive à montrer l'équation de point fixe, c'est-à-dire une équivalence observationnelle entre Y de F de A et F de Y de F de A. Donc, ce qui est, je trouve aussi un résultat un peu impressionnant. Alors maintenant, ce type delay, en fait, est une monade, et donc bien sûr, je vais vous en parler parce que j'adore les monades. L'opération return, c'est le constructeur now. D'accord, qui prend un calcul déjà trivial, une valeur, et vous renvoie un calcul trivial qui termine tout de suite. Et l'opération bind, c'est le séquencement de calculs que vous pouvez définir par une co-récursion. D'accord ? D'abord, vous parcourez le calcul A. Si c'est now de V, vous continuez avec F de V. Si c'est later de A', vous continuez avec bind de A' et de F. Et ça, ça a les bonnes propriétés d'une séquence. Par exemple, bind de A et de F divergent si A diverge, mais aussi si A termine sur V et F de V divergent. En revanche, si les deux terminent, A termine sur V, F de V termine sur V', alors le bind termine sur V'. Très naturel, mais pas très utilisable. Parce qu'on a notre critère syntaxique de productivité, et du coup, on ne peut pas vraiment utiliser ce bind à l'intérieur d'une définition co-inductive, d'accord, co-récursive. Alors, un autre exemple de fonction idiote dans la littérature dont la terminaison n'est pas évidente, c'est la fonction 91 de McCarthy, qui est définie comme n moins 10 si l'argument n est strictement plus grand que 100, ou m de n plus 11 si n est inférieur ou égal à 100. Donc celle-là, on sait démontrer qu'elle termine, et même qu'elle est égale à 91. Mais si maintenant j'essaye de l'écrire comme un co-fixed point, une co-récursion, là on voit que j'ai deux appels à m que je dois séquencer. D'abord, je dois calculer m de n plus 11, puis m du résultat. Et ça, c'est le boulot parfait pour le bind d'une monade, n'est-ce pas? Donc je bind m de n plus 11, et puis je rappelle sur m de x. Le problème, c'est que Koch va rejeter ces deux appels co-récursifs, car ils apparaissent sous un bind, mais bind n'est pas un constructeur du type delay. D'accord, et même en déroulant la définition de bind, il n'est pas du tout clair pour Koch qu'il y a toujours un constructeur du type delay qui va s'insérer correctement. Donc Koch dit non, je ne suis pas convaincu que ce soit productif. Mais il y a une solution qu'on trouve dans un délicieux article de Nils Danielsson, dont le titre résume le contenu de l'article, « Beating the productivity checker using embedded languages », ou comment battre le vérificateur de productivité à son propre jeu en utilisant des langages dédiés. Et ça rejoint aussi une autre idée qu'on trouve parfois dans la littérature, l'idée de la monade libre. Donc on peut en fait voir une monade comme juste un type avec des constructeurs. Il y en a un qui est ret, il y en a un autre qui est bind, et puis il y a éventuellement les opérations spécifiques de la monade. Ici, c'est later, d'accord. Et l'idée de Danielsson et l'idée de la monade libre se rencontrent pour dire qu'on va faire un type co-inductif de la monade de partialité avec trois constructeurs, ret, bind et later, que j'ai écrit un peu différemment parce que j'ai besoin des deux constructeurs later, celui du type mon et celui du type delay. Et maintenant, ma fonction 91, si je l'écris à valeur dans mon de nat et non plus delay de nat, elle est tout à fait productive. Dans un cas, j'ai un constructeur du type mon, ret. Dans l'autre cas, j'ai un constructeur du type mon, bind, sous lequel apparaissent deux appels co-récursifs. Donc tout va bien, ma fonction elle est définie. Sauf qu'elle calcule une espèce de programme dans la monade, d'accord. Elle ne calcule pas encore vraiment un résultat. Elle calcule un emboîtement d'opérations bind, ret et later. Mais ce n'est pas grave parce qu'une telle description de calcul de type mon de A se transforme en calcul de type delay de A par une fonction d'interprétation qui, elle, est aussi productive. C'est ça le miracle. Et l'interprétation est triviale, d'accord. Interpréter ret de V, c'est renvoyer now de V. Interpréter later dans la monade, c'est utiliser later de delay. Et puis pour le bind, il y a une petite analyse de cas sur les trois formes possibles de l'argument, qui en fait implémente au vol les lois monadiques. Par exemple, bind de ret, on sait que ça fait la même chose que f de v, donc on récursivement on interprète f de v, et puis on protège le tout par un later. Et bind de bind, on sait qu'il y a une associativité, hein, qu'on est en train d'appliquer au vol aussi. Et tout ça est correctement co-récursif, productif, parce qu'il y a un constructeur later à chaque étape. Et donc, c'est en combinant ces deux définitions co-récursives, productives, on arrive à définir quelque chose qui, en fait, n'était pas productif de manière évidente au début. Voilà. Donc, une astuce très élégante et très utile. Bien. Mais maintenant, donc, je reviens sur la troisième présentation possible des types inductifs et co-inductifs que je vous avais promis, ce qui est peut-être la présentation la plus moderne, en tout cas celle dont on parle beaucoup ces cinq dernières années. C'est l'idée que, donc d'accord, les types inductifs sont finiment engendrés par leur constructeur. Et ce serait quoi vraiment une vision duale de la chose? Ce serait dire que les types co-inductifs sont finiment caractérisés par leur projection, un peu l'inverse des constructeurs, et par les observations qu'on peut faire sur les valeurs de ces types. Par exemple, sur un flux, un stream de type A, quelles sont les observations qu'on peut faire? Quelles sont les projections qu'on peut faire? On peut extraire la tête du flux, head, puis on peut extraire la queue du flux, tail, et puis on peut observer le head du tail, le head du tail du tail, le head du tail du tail du tail n fois. Et en fait, si vous observez tous ces heads-là, vous avez caractérisé complètement votre flux. D'accord ? Vous savez exactement ce qu'il y a dedans. De la même manière, même si le flux lui-même est d'une certaine manière une boîte noire. Et de la même manière, une fonction de A dans B, c'est aussi un peu une boîte noire. D'accord ? En général, on ne peut pas aller voir quel est son code, mais on peut l'appliquer, on peut observer ce qu'elle donne quand on l'applique à des valeurs A1, A2, AN du type A. Et donc tout ça suggère de classer nos types de données en d'un côté, d'un côté les types de données, donc ça va être par exemple les entiers, les booléens, les produits de données, les sommes de données, tout ce qui est type inductif, et de l'autre côté les codonnées, les fonctions, les flux, tous les types co-inductifs. Donc les premiers, moralement, on va savoir comment les construire, et les seconds, on va savoir comment les observer. Alors, on pousse la dualité symétrie jusqu'au bout. On a dit que les types inductifs, ce sont des sommes étiquetées par des constructeurs. Donc on va dire que les types co-inductifs, ce sont des produits étiquetés par les projections. C'est ce qui s'appelle les enregistrements, des records. D'accord ? Les projections, c'est les étiquettes de l'enregistrement. Donc de la même manière qu'une liste de A, c'est les constructeurs nil et cons, stream de A, c'est les projections head et tail. D'accord ? OK, donc une codonnée, on sait l'observer. On lui applique des projections, on voit ce que ça donne. Mais comment est-ce qu'on va la produire, la construire ? D'accord ? On n'a pas de constructeur. L'idée, c'est qu'on peut la définir par des équations. Il suffit de définir comment elle réagit aux projections. Voilà. Quand on l'observe, à quoi elle ressemble ? Et ça peut se faire par des équations. Par exemple, le flux from de n, de tous les entiers à partir de n. Donc c'est le flux n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. On peut dire qu'il réagit à l'observation head. Donc si on projette head, eh bien, c'est n le résultat. Et si on projette tail, si on observe tail, ça va être from de n plus 1. Donc c'est un autre flux, mais qui lui commence à n plus 1. D'accord ? De même, l'application d'une fonction f en chaque point d'un flux, donc le map sur les flux, ben, map fs, le head c'est quoi ? La tête c'est quoi ? C'est f appliqué à s de head. Et le tail, la queue, c'est map de f appliqué à la queue de s. Et là encore une fois, j'ai défini entièrement ma fonction map. Pardon, mon objet map, disons. Map de f de s. Et alors en plus, donc c'est un style qui est joliment symétrique. Ce style de définition par équation, il existe aussi en Haskell, en AGDA, entre autres, pour définir dans le monde inductif, pour définir des fonctions récursives qui opèrent sur des données inductives. Par exemple, les fonctions doubles, qui multiplient par 2 un entier de Peano, ça peut être défini par deux équations. Double de 0 est égal à 0, et double de S de X, c'est S de S de X. D'accord ? Et donc, on a une assez belle symétrie, là encore. Dans le cas des données, on a besoin d'une équation par constructeur possible pour l'argument, au minimum. Et dans le cas d'une codonnée, il faut une équation par projection possible sur le résultat. Donc là, à gauche, je vous ai rappelé le map sur les streams, donc sur une codonnée. Là, c'est le map sur les listes usuelles, qui est une donnée. Et donc là, vous voyez deux équations pour les deux projections qu'on peut appliquer au résultat. Et là, vous voyez deux équations pour les deux constructeurs possibles de l'argument. D'accord ? Et donc, dans un délicieux article publié en 2013, donc, qui s'appelle Co-Patterns, le titre le plus court de la conférence Popol de ces dernières années. Abel, Pienka, Thibaudot, Setzer proposent d'unifier justement les deux types de définition par équation avec une notion de motif, donc patterns, et de co-motif, co-patterns. Donc les motifs, c'est ce qu'on trouve dans les filtrages de camel ou de coq, d'accord ? C'est les formes possibles pour une donnée, donc ça peut être soit une variable, soit un constructeur appliqué à 0, 1 ou plusieurs sous-motifs, suivant le nombre d'arguments du constructeur. Et symétriquement, les comotifs, ce sont les observations possibles sur la codonnée qu'on est en train de construire. Alors, ça peut être l'observation triviale, donc carré, juste l'objet en cours de définition, on n'observe rien. Ça peut être une application de fonction. Donc si Q, c'est une observation qui nous mène à une fonction, on peut l'appliquer à un motif, d'accord, à des données d'une certaine forme. Et puis, ça peut être une projection. À partir d'un comotif, on peut projeter, appliquer une projection supplémentaire. Et du coup, une codonnée est définie par une liste de cas, comotif, virgule, expression. Par exemple, une abstraction de fonction, lambda x.a, ça n'est pas du tout primitif dans le calcul de Abel et ses co-auteurs, c'est juste un cas, une équation, qui dit que le comotif carré appliqué à x, d'accord, donc l'objet en cours de définition appliqué à x est toujours égal à a, dans lequel x peut apparaître, bien sûr. Ça colle. Hein. De même, un flux dont la tête est A et la queue est B va être défini par deux cas, deux équations. L'objet dont on parle, point HD, est égal à A. L'objet dont on parle, point TL, est égal à B. Voilà, c'est fort élégant. Et après, on peut s'amuser à imbriquer les commotifs. Donc, il y a à la fois un aspect co-inductif et un aspect inductif, si vous voulez. Et puis aussi, on peut aller en profondeur. Donc, par exemple, donc ça, c'est la définition des nombres de Fibonacci sous forme inductive, avec trois équations, 0, successeur de 0, successeur de x. Mais vous pouvez aussi définir la suite de ces nombres sous forme d'un flux, en disant que la tête de ce flux, c'est 1, successeur de 0, la tête de la queue, donc l'élément suivant, c'est 1, successeur de 0, et la queue de la queue, c'est zipwith, donc l'application point à point de la fonction plus, sur fibs, la liste des fibs, et le queue de la liste des fibs. Et ça, en fait, ça marche. Si vous déroulez cette récursion, vous voyez que ça donne effectivement les nombres de Fibonacci. Et puis là, vous avez une définition, un exemple un peu artificiel, bon, je ne vais pas insister beaucoup, donc qui permet de construire des flux cycliques de nombres, donc compter à partir de n, n-1 jusqu'à 0, puis là on repart en grand N, on redécompte jusqu'à 0, puis grand N, on redécompte jusqu'à 0, et ça illustre le fait qu'on a à la fois des observations, head, tail, et du filtrage sur l'argument de la fonction cycle. Bien. Et donc juste pour finir avec cette approche, donc parlons un peu des règles de réduction et de voir que le problème qu'on avait vu en Koch là, de perte de la subject reduction n'est pas là apparemment. Donc comment on interprète les calculs là-dessus? Ben, chaque équation va être interprétée comme une règle de réduction. Donc si dans votre terme vous avez une instance d'un de ces motifs, eh bien, vous pouvez le réécrire en son membre droit. Et par exemple, donc si vous avez cycle de sss0.tail.tail.head, je vous ai mis en rouge à chaque fois les redex, les parties qui correspondent à une règle, pas une équation, et donc petit à petit, vous réduisez ça en s de 0. Et alors la raison pour laquelle le problème de Koch est évité, c'est qu'il n'y a pas a priori d'égalité entre une codonnée et son expansion. D'accord ? Par exemple, le flux s est le flux tel que la tête est égale à la tête de S et la queue est égale à la queue de S, réagissent pareil aux projections, bien sûr, sont observationnellement équivalents, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux. Et vous n'arriverez a priori pas à démontrer une égalité entre ces deux flux-là, mais vous n'en avez pas besoin, c'est ça l'idée. Et comme il n'y a pas d'égalité démontrable, il n'y a pas le problème de non-préservation du typage qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors en revanche, ce qui n'est pas encore totalement clair dans cette approche, c'est quel est l'équivalent d'un critère de productivité et du critère de récurrence structurelle. Alors, quand on a des motifs et des commotifs simples, ça semble relativement évident, par des conditions syntaxiques. Pour garantir la productivité, chaque commotif doit commencer par une projection. Pour garantir l'aspect récurrent structurel, c'est que les appels récursifs doivent être faits sur des variables qui apparaissent dans le commotif sous un constructeur. Donc, par exemple, cette équation ici, elle est fausse pour les deux critères. D'accord ? On s'appelle récursivement sur quelque chose qui n'est pas un sous-motif, et il n'y a pas d'observation ici pour garder l'appel. En revanche, là, on a une observation pour garder l'appel, donc ça va bien, et là, on a une récurrence sur un sous-terme strict d'un argument, donc ça devrait être bien aussi. En revanche, pour des commotifs plus complexes, la productivité est moins évidente. Donc, je vous ai annoncé froidement que ce cas de Fibs, tout allait bien, et ça vous définit la suite des nombres de Fibonacci. Ce n'est pas complètement évident de pourquoi on a le droit de prendre le tail ici sans entrer justement dans un cycle, sans être productif. Et l'intégration de ces idées dans AGDA, qui a été faite récemment, utilise en fait des types avec taille, des sized types, quelque chose qu'on avait vu très très vite à la fin du cours de la deuxième semaine, qui permettent de contrôler la productivité et la récurrence structurelle plus finement que des critères purement syntaxiques. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et maintenant, dans les 10 minutes à la fin de ce cours, je voudrais vous parler d'une dernière application qui est la programmation réactive et comment faire ça. Alors, soit avec des techniques de co-récursion, soit par une alternative qui s'appelle la récursion gardée. Alors, c'est quoi la programmation réactive ? Voilà, là, je parle sous le contrôle d'un expert, Gérard Berry, qui est ici. Ça me rappelle une fois où j'ai fait un exposé où je parlais d'analyse statique par interprétation abstraite, et il y avait Patrick Iradiakouza au premier rang. Donc, au sens très large, un programme réactif, c'est un programme dont le but, dont l'existence, est de réagir par ses calculs aux événements qui lui proviennent de l'extérieur. Et un exemple familier à tout le monde, c'est une feuille de calcul Excel en mode recalcul automatique. Vous changez une des cases et automatiquement, les cases qui dépendent de cette, par des formules de cette case sont recalculées. D'accord ? Et donc, la feuille de calcul a réagi à votre changement. Après, il y a des applications plus glorieuses, en particulier dans tout ce qui est contrôle-commande de systèmes embarqués, automobiles, avions, trains, etc. Donc, c'est extrêmement important en pratique. Alors, je vais prendre une vision un petit peu plus restreinte pour la suite de ce cours. Donc, on va dire un programme est réactif si c'est un programme qui, de la forme suivante, il reçoit une suite de valeurs d'entrée, E0, E1, E2, et il doit calculer incrémentalement et au même rythme une suite de valeurs de sortie, S0, S1, S2. En particulier, il ne peut pas attendre trop longtemps pour produire sa sortie, S2, une fois qu'il a reçu son entrée, E2. D'accord ? Donc ça, c'est une vision à base de temps discret. Alors, il y a des visions aussi à base de temps plus continue, où on voit un programme réactif plutôt comme une fonction du temps dans les résultats. Mais bon, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et en fait, vu qu'on manipule les suites de valeurs d'entrée, des suites de valeurs de sortie, des suites de résultats intermédiaires, on peut dire que ce serait commode de représenter toutes ces suites par des flux. D'accord ? En fait, un programme réactif, c'est juste un programme qui calcule sur des flux. Il y a du vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un programme réactif, ce n'est pas n'importe quelle fonction des flux dans les flux, il faut que la fonction soit causale, c'est-à-dire que la énième sortie, S1-N, dépend uniquement des entrées passées. E0, E1, jusqu'à E1-N, mais elle n'a pas le droit de dépendre des entrées futures, EN plus 1, EN plus 2, etc. D'accord ? Il y a vraiment cette idée qu'il faut produire la énième sortie, SN, en ne connaissant que les N premières entrées. Bon. Et alors, quelques exemples de fonctions qui sont causales ou pas causales sur les flux. Par exemple, le map, appliquer point à point une fonction sur un flux, c'est causal. Le cons, c'est causal, parce que même ça décale dans l'autre sens. D'accord, la énième sortie ne dépend que des n-1 premières entrées, mais ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train d'aller voir dans le futur. En revanche, le tail, prendre la queue d'un flux, justement, c'est aller voir dans le futur, parce que la énième sortie dépend de la n-1 entrée, et ça ne va pas du tout. De même, une fonction qui jette un élément sur deux du flux d'entrée, donc qui garde les éléments pairs et qui jette les éléments impairs, celle-là, elle produit ses sorties trop lentement. D'accord, ça, pour produire sa sortie numéro 1, il faut déjà qu'elle ait lu les deux premières entrées, ça ne va pas. En revanche, cette variante, donc, qui choisit les éléments pairs du flux d'entrée et les répète deux fois, celle-là reste causale. D'accord, elle produit ses sorties au bon rythme et la énième sortie dépend bien que des n premières entrées. Donc voilà. Alors, comment garantir cette causalité ? Ben, on peut le garantir par construction, avec un langage dédié. D'accord. Et l'exemple que j'adore, c'est Lustre, dont on a parlé dans plusieurs des cours de Gérard Berry les années précédentes. Vous pouvez voir Lustre comme... un programme Lustre, c'est juste des définitions de flux qui sont définis par des ensembles d'équations mutuellement récursives de la forme flux XI égale expression EI. Mais le langage de l'expression EI est assez pauvre et très soigneusement choisi pour qu'on ne puisse définir que des choses causales. Donc, dans les expressions, vous pouvez faire des calculs point par point, comme une espèce de map ou de zipwiz, où vous appliquez un opérateur comme plus point par point sur un ou plusieurs flux. Vous avez des opérateurs temporels qui se ramènent tous au cons sur les flux. D'accord ? Donc, le plus primitif, c'est followed by, constante followed by un flux, c'est juste le cons de la constante, donc autant 0 ça vaut la constante, autant n plus 1 ça vaut x autant n, et puis des variantes comme près de x, qui en fait vaut une certaine valeur par défaut au premier temps, et puis x après, ou x puis y, qui est juste x autant 0 et y autant postérieur. Et puis il y a aussi des opérations d'échantillonnage, sur ce qu'ils appellent des horloges, qui sont juste des flux de booléens. Donc en gros, quand le flux booléen est vrai, on prend une certaine valeur dans un flux, et sinon, on ne jette pas, mais sinon, on produit une valeur qui abs, qui enregistre le fait qu'il n'y a pas de données à cet endroit-là. Donc x ou n c, qui est l'opérateur d'échantillonnage de base, c'est en fait quelque chose qui produit une liste, un flux exactement au même rythme, simplement les éléments du flux sont soit de la forme, sont tagués, c'est soit absent, pour dire ben non, l'horloge n'était pas là, soit présent et une valeur, et ça rappelle que l'horloge était là. Et donc ça, tout ça reste productif aussi. Bien. Mais c'est un peu limitant quand même. Un langage comme Lustre est assez peu expressif. Alors certains disent que c'est sa plus grande qualité. Je suis assez d'accord aussi. C'est plus facile à vérifier, par exemple. D'un autre côté, il y a des gens dans cette salle, par exemple, qui aiment bien les fonctions d'ordre supérieur, qui voudraient avoir programmé en Lustre avec des fonctions d'un haut. En lustre-like avec des fonctions d'ordre supérieur ou des choses un peu plus avancées. Et donc l'idée là, c'est peut-être on peut remplacer ces conditions syntaxiques par des vérifications de type, d'accord. Et en particulier, donc Neil Krishnaswamy et Nick Benton, au début des années 2010, ont développé l'idée d'ajouter au type une modalité plus tard qu'on va noter comme la semaine dernière, d'accord, plus tard de A. Donc on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Et alors l'intuition, c'est que les valeurs de type plus tard de A sont des valeurs de type A, mais qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. Si on les utilise tout de suite, on viole la causalité. En revanche, on peut les utiliser à partir du prochain pas de temps. Et donc, par exemple, sur les flux, donc head d'un flux vous renvoie une valeur de type A utilisable tout de suite, mais tail vous renvoie une valeur de type stream de A non utilisable tout de suite, parce qu'elle n'est pas bien définie, et pas complètement bien définie, vu les entrées qu'on a eues aujourd'hui, à l'instant courant, mais elle sera définie à l'instant suivant quand on aura, et utilisable à l'instant suivant quand on aura reçu une entrée de plus. Et du coup, cons, alors on peut lui donner son type usuel, bien sûr, A flèche stream de A flèche stream de A, mais ce n'est pas un type très précis. On peut lui donner un type plus précis qui est que Cons ne va pas utiliser son deuxième argument tout de suite, et donc le deuxième argument peut être d'un type plus tard flux de A. D'accord ? Et du coup, avec ça, bon, on peut faire un petit langage autour. Donc ça, c'est un papier de Clouston et ses co-auteurs qui développent le Guardi de lambda calculus autour de ces idées-là. Lambda calcul avec récursion gardée, dans lequel, en particulier, donc on retrouve le point fixe de l'OB qu'on a vu la semaine dernière, d'accord, celui qui permet de prendre de définir des trucs de type A avec une récursion de la forme plus tard de A flèche A, et puis le next qui nous permet de décaler un A vers plus tard, et puis cet opérateur d'application ici qui nous permet d'appliquer une fonction plus tard à un argument plus tard, ça va nous donner un résultat plus tard. Et avec ça, on définit donc des fonctions qui sont à la fois donc, causales et productives, c'est garanti par le typage. Par exemple, map, donc, qui va être ce point fixe ici. Alors, je ne vais pas vous le lire complètement, mais l'idée vraiment centrale, c'est que la récursion, elle se fait. Donc l'hypothèse de récurrence, la fonction qu'on peut utiliser pour la récursion, elle est de la forme plus tard stream de A flèche stream de B. Donc on ne peut pas l'appliquer tout de suite, mais on peut l'appliquer à la queue du flux S, puisque c'est une valeur qui n'existe que plus tard. Donc map a le bon type. Et avec ça, on peut aussi définir les nombres naturels comme 0 suivi de map de successeur sur les entiers naturels. D'accord. Et encore une fois, ce point fixe fonctionne avec, comme hypothèse de récurrence, si j'ose dire, que S, plus tard, est de type stream de nat. Et c'est quand même joli que le typage garantisse et la causalité et la productivité, alors que si vous écrivez la définition correspondante en coq, elle ne passe même pas le critère de productivité. D'accord. Coq dit bobo, map, là je ne sais pas ce que c'est, je vois pas de. On est en train d'utiliser NATS sous quelque chose qui n'est pas un constructeur, je rejette. Et donc tout ce que je viens de dire, ça s'applique pas juste au type des flux, d'accord, mais ça s'applique à toute une famille de types qui sont définissables dans le langage. Donc on peut former des types récursifs mu alpha point tau, à condition que le alpha soit gardé dans tau. Donc toutes les occurrences de alpha sont sous la modalité plus tard. Et donc par exemple les flux, c'est mu alpha a croix plus tard alpha. Donc c'est une paire d'un a et plus tard d'un flux de alpha. Mu alpha unit plus a croix mu plus tard alpha, ça vous donne les listes qui sont finies ou infinies. D'accord. Là, vous avez les arbres binaires infinis, donc qui sont nos automates déterministes, avec des booléens aux nœuds dont on parlait tout à l'heure. Mais en revanche, un type comme ça, mu alpha unit plus alpha, n'est pas gardé et n'est a priori pas bien défini. Et donc la sémantique que Clouston et ses co-auteurs donnent à ça, en fait, c'est dans le topos des arbres, parce qu'on a cette espèce de logique un peu indexée par des entiers qu'on avait vu la semaine dernière. Ces types récursifs gardés s'interprètent comme des familles de types non récursifs indexés par le temps. Et donc j'insiste sur le fait qu'à chaque tenté, le type, il n'est pas récursif. Donc du coup, il n'y a même pas à se poser une question, est-ce qu'il est inductif, co-inductif, etc., etc. Par exemple, pour les flux, autant 0, c'est juste unit. D'accord. Autant 1, c'est A croix unit, autant 2, c'est A croix unit, autant N, c'est un N-uplet de A, c'est-à-dire une liste de longueur N, c'est-à-dire en fait l'historique des premiers éléments du flux, c'est tout. D'accord. Et de même, pour les mu alpha unit plus A croix alpha, pardon, plus tard de alpha, excusez-moi, il y a des plus tard qui manquent ici, autant N, ça va être les listes de longueur O plus N. D'accord. Mais, et là je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis déjà en retard, mais il y a un moyen de retrouver les types co-inductifs habituels, ceux qu'on peut utiliser librement à tout instant, ceux dans lesquels on peut aller arbitrairement loin dans l'exploration, via une autre modalité. Cette fois-là, c'est la modalité carrée, qu'on peut lire comme pour toujours, et sémantiquement, c'est ce qu'ils appellent un objet constant. Dans cette construction catégorique, c'est une espèce de limite des interprétations de A autant N quand N tend vers l'infini. Par exemple, là j'ai bien mis les letters, si vous prenez la limite des flux, d'accord, c'est la limite quand N tend vers l'infini des listes de A de longueur N, et on sent que ça va être les listes infinies de A. D'accord. En revanche, pour celui-là, c'est la limite des listes de A de longueur inférieure ou égale à N, et on voit qu'on peut avoir dans la limite des listes finies ou des listes infinies. Alors après, il y a quelques restrictions dans tout ça pour que, essentiellement, cette modalité se comporte comme la modalité nécessairement, une logique intuitionniste comme S4. Donc en particulier, on peut éliminer à tout moment la modalité. Donc à partir d'un A constant, on peut obtenir un A. En revanche, à partir d'un A, on peut obtenir un A constant seulement si on est sous des hypothèses qui sont elles-mêmes toutes constantes dans le temps. Et avec ça, on peut redéfinir des fonctions non causales sur les types co-inductifs. D'accord ? Donc on a à la fois le beurre et l'argent du beurre. Donc le beurre, c'est des fonctions causales sur les types récursifs gardés. Et l'argent du beurre, c'est des fonctions co-inductives sur des fonctions non causales, a priori, sur des types co-inductifs. Mais la récursion, elle, se fait toujours sur des types récursifs gardés. On ne peut pas faire directement une récursion sur des types co-inductifs. Et donc, on a cet idiome, d'accord, où d'abord, on fait une récursion sur des types gardés, par exemple, le type normal stream de A, finalement, on boxe le résultat à la fin pour le réinjecter dans les co-inductifs. Donc ça, c'est l'exemple de la fonction qui sélectionne un élément sur deux dans un flux. Et ce que cette petite gymnastique nous garantit, c'est que nos calculs sont productifs. D'accord, ils ne sont plus forcément causaux, mais ils restent productifs. Bon, donc je suis allé très vite, mais je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à aller voir ce papier qui est vraiment très très élégant. Donc, il est temps de conclure. Donc finalement, est-ce qu'on est heureux comme Sisyphe ? Donc on a effectivement des techniques de définition et de démonstration co-inductives qui nous permettent de regarder l'infini droit dans les yeux. D'accord ? On peut programmer, on peut raisonner directement sur des objets infinis. Et on peut même faire ça en théorie des types, dans des systèmes comme AGDA et Koch, ce qui n'était pas gagné au départ, parce que les notions de normalisation de forte sont essentielles, de terminaison, de calcul qui termine, sont essentielles pour la cohérence logique de ces systèmes. Après, alors c'est pas toujours facile tous les jours, les conditions de productivité, notamment dans Koch, dans AGDA, sont très strictes. Raisonner par co-induction reste difficile, donc il y a eu... Ces cinq dernières années, toute une série d'articles pour proposer des principes de preuve plus souples. Par exemple, la co-induction paramétrée de Chung Kil-hoor et ses co-auteurs, la co-induction all the way up, je ne sais pas traduire, de Damien Pousse. Et puis, l'exemple de la programmation réactive, ça a montré que parfois, on peut préférer aussi des approches finitistes. Celle où on ne regarde pas l'infini tout droit dans les yeux, on regarde plutôt des approximations finies pour un certain nombre n d'étapes et on fait passer n à la limite. Et ça, c'est plutôt les techniques, par exemple, de step indexing, telles qu'on les a vues la semaine dernière. Donc les deux ont leur place, je pense. Approche finitiste et approche co-inductive. Voilà, je vous remercie.